Georges Bernanos, sous le soleil de Satan, sixième partie. Il ne se révolte pas encore. Il se relève avec un profond soupir et, d'un geste des épaules comme pour assujettir son fardeau, se remet en marche, tournant décidément le dos. Il avance d'un pas régulier, docile, dans la terre qui colle à ses semelles, enjambe des haies basses, une clôture en fil de fer, évite d'autres obstacles à tâtons sans tourner la tête, de nouveau infatigable. Il ne délire pas du tout, il ne se propose aucun but singulier. Il accepte comme une aventure ordinaire ce voyage si étrangement interrompu et ne songe bonnement qu'à rentrer le plus vite possible là-bas au presbytère de campagne avant le jour. Il a décidé simplement de refaire à rebours son long voyage. Si l'abbé Menou-Segret se dressait tout à coup devant lui, nul doute qu'après l'avoir poliment salué, il lui conterait l'affaire en peu de mots, comme on rend compte d'un contretemps seulement fâcheux. Après un dernier fossé franchi, le voilà maintenant sur un chemin de terre fort étroit, à peine tracé au milieu des labours. Il se souvient de l'avoir suivi, peut-être une heure ou deux plus tôt. Mais alors, il était seul, semble-t-il. Car depuis un moment, pourquoi ne l'avouerait-il point? Il n'est plus seul. Quelqu'un marche à ses côtés. C'est sans doute un petit homme fort vif. Tantôt à droite, tantôt à gauche, devant, derrière, mais dont il distingue mal la silhouette et qui trotte d'abord sans souffler mot. Par une nuit si noire, ne pourrait-on s'entraider? A-t-on besoin de se connaître pour aller de compagnie à travers ce grand silence, cette grande nuit? « Une grande nuit, hein ?» dit tout à coup le petit homme. « Oui, monsieur, » répond l'abbé Donissant. « Nous sommes encore loin du jour. » C'est certainement un jovial garçon, car sa voix, sans aucun éclat, a un accent de gaieté secrète, véritablement irrésistible. Elle achève de rassurer le pauvre prêtre. Mais il craint que sa brève réponse n'ait fâché le joyeux compagnon, plein de bonne humeur. Qu'une parole humaine peut être agréable à entendre ainsi, à l'improviste, et qu'elle est douce. L'abbé Donissant se souvient qu'il n'a pas d'amis. « J'estime, prononce alors le noir petit marcheur, que l'obscurité rapproche les gens. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Quand il n'y voit goutte, le plus malin n'est pas fier. Une supposition que vous m'ayez rencontré en plein midi, vous passiez sans seulement tourner la tête, et ainsi donc, vous venez d'Étaples ? » Sans attendre la réponse, il précède rapidement son compagnon, empoigne le fil barbelé d'une clôture invisible, le tient poliment levé à bout de bras pour faciliter le passage. Puis il reprend de sa joyeuse voix un peu sourde « Ainsi vous venez d'Étaples, et vous allez sans doute à Cumières, ou Chalindrie, ou Campagne ?»« À Campagne, » répond le vicaire, qui évite ainsi de mentir. « Je ne vous accompagnerai pas jusque-là, » reprend-il en riant un petit coup, d'un rire amical. « Nous coupons en cours à travers champs vers Chalindrie. Je connais les clôtures, j'irai les yeux fermés. »« Je vous remercie, » dit l'abbé Donissant, débordant de reconnaissance. « Je vous remercie de votre obligeance et de votre charité. Tant d'étrangers m'eussent laissé sans secours. Il y a de bonnes gens auxquels ma pauvre soutane fait peur. » Le petit homme siffla avec dédain. « Des nigauds, fait-il, des ignorants, des cutéreux qui ne savent pas lire. J'en rencontre assez souvent sur les marchés, dans les foires de Calais jusqu'au Havre. Que de bêtises on entend, que de misère. J'ai un frère de ma mère, prêtre, moi qui vous parle. » Il se pencha de nouveau vers une haie épaisse et courte, hérissée d'épines. Après l'avoir tâté, reconnu de ses longs bras agiles, entraînant le vicaire sur la droite avec une vivacité singulière, Il découvrit une large brèche et, s'effaçant pour le laisser passer, « Constatez vous-même, fit-il, je n'ai pas besoin d'y voir. Un autre que moi, par une nuit pareille, tournerait en rond jusqu'au matin. Mais ce pays-ci m'est connu. » « L'habitez-vous ? » demanda presque timidement le vicaire de campagne, car à mesure qu'il s'éloignait de la ville dont l'avait détourné une succession d'événements inexplicables, une terreur comme apaisée, sourde, mêlée de honte, pareille au souvenir d'un rêve impur, pénétrait profondément son cœur et la pointe enfin détournée le laissait faible, hésitant, avec le désir enfantin d'une présence secourable, certaine, d'un bras à serrer. « Je n'habite nulle part, autant dire, » avoua l'autre. « Je voyage pour le compte d'un marchand de chevaux du Boulonnais. J'étais à Calais avant-hier, je serai jeudi à Avranches. Oh, la vie est dure, je n'ai pas le temps de prendre racine nulle part. « Êtes-vous marié ? » interrogea de nouveau l'abbé Donissant. Il éclata de rire. « Marié avec la misère ! Où voulez-vous que je trouve le loisir de penser sérieusement à tout ça ? On va, on vient, on ne s'attache pas. On prend son plaisir en passant. » Il se tut, puis reprit avec embarras. « Je vous demande pardon. Ce n'est pas des choses à dire à un homme comme vous. Appuyez franchement sur la droite. Il y a près d'ici un fond plein d'eau. » Cette sollicitude émeut de nouveau l'abbé Donissant. Il marche à présent d'un pas très rapide, presque sans fatigue. Mais à mesure que la fatigue se dissipe, une autre faiblesse s'insinue en lui, prend possession, pénètre sa volonté d'un attendrissement si lâche, si poignant. Des paroles montent à ses lèvres que sa conscience contrôle vaguement. « Le bon Dieu vous récompensera de votre peine, » dit-il. « C'est lui qui vous a mis sur mon chemin, en un moment où le courage m'abandonnait, car cette nuit a été pour moi une dure et longue nuit, plus dure et plus longue que vous ne pouvez l'imaginer. » C'est tout juste s'il retient encore le récit naïf, insensé, de sa dernière aventure. Il voudrait parler, se confier, contempler dans un regard, même inconnu, mais amical, compatissant, sa propre inquiétude, le doute qui déjà l'assaille, l'horrible rêve. Toutefois, le regard qu'il rencontre en levant les yeux est plus étonné que compatissant. « Voyager par une nuit sans lune n'est jamais bien agréable, » répond évasivement l'étranger. « D'Étaples à campagne, je pense, il y a bien 4 lieues de mauvaise route, et sans moi, l'étape était forcément plus longue encore. » Le raccourci nous fait gagner 2 kilomètres au moins, mais nous voici sur la route de Chalindry. La route, blême dans la nuit, s'enfonce toute droite à travers la plaine informe. « Je vous laisserai continuer tout seul tout à l'heure, » ajouta-t-il comme avec regret. « Êtes-vous d'ailleurs si pressé de regagner campagne ?»« J'ai déjà trop tardé, » répond le futur curé de l'Imbre, « beaucoup trop. » Je vous aurais demandé, il eût été possible, préférable même, d'attendre le jour chez moi dans une petite bicoque que je connais bien, en lisière du bois de la Saugerie, une forte cabane de charbonnier avec un âtre, et tout ce qu'il faut pour faire un feu. Mais l'invitation est formulée du bout des lèvres, et l'hésitation de la voix jusqu'alors si claire et si franche surprend l'abbé Donissant. « Il redoute bien que je n'accepte, » pensa-t-il avec tristesse, « qu'il a hâte de m'écarter de son chemin, lui aussi. » Cette humble évidence verse tout à coup dans son cœur un flot d'amertume. Sa déception est de nouveau si grande, son désespoir si soudain, si véhément, qu'une telle disproportion de l'effet et de la cause inquiète tout de même ce qui lui reste encore de bon sens ou de raison, à travers son délire grandissant. Mais s'il peut retenir telle parole imprudente, comment tarir ce flot de larmes ? Arrêtons-nous un moment, propose le maquignon, détournant discrètement les yeux du pauvre prêtre secoué de sanglots. Ne vous gênez pas, c'est la fatigue, vous êtes rendu, je connais ça, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça crève. Mais il ajoute aussitôt, riant à demi, « Sans reproche, monsieur le curé, vous venez de loin, vous avez quelques lieues dans les jambes. » Il étend par terre, à la crête d'un talus, son manteau de gros drap. Il y couche presque de force son compagnon. Que le geste de ce rude samaritain est attentif, délicat, fraternel. Quel moyen de résister tout à fait à cette tendresse inconnue? Quel moyen de refuser à ce regard ami la confidence qui l'attend? Et toutefois, le misérable prêtre, si étrangement humilié, résiste encore, rassemble ses dernières forces. Si épaisse que soit la nuit qui l'enveloppe, au dehors et au dedans, il se juge avec sévérité, s'estime puéril et lâche, déplore ce ridicule scandale, l'odieux de ses larmes stupides. Qu'il le veuille ou non, il est difficile de ne point rattacher cette aventure à peine moins mystérieuse à l'égarement qui, quelques heures plus tôt, l'arrêtait en chemin, l'écartait incompréhensiblement de son but, et cependant, d'autre part, pourquoi cette dernière rencontre ne serait-elle point un secours, une rémission? Ne peut-il attendre humblement conseil de l'homme de bonne volonté, qui, en l'assistant, pratique sans la pouvoir nommer peut-être la charité de l'Évangile? Ah, il est trop dur de se taire, de repousser une main tendue. Il la prend, cette main. Il la presse. Et aussitôt, son cœur s'échauffe étrangement dans sa poitrine. Ce qui lui paraissait encore une minute avant naïf ou dangereux, lui semble à présent judicieux, nécessaire, indispensable. L'humilité dédaigne-t-elle aucun secours? « Je ne sais, commença le vicaire de campagne, je ne sais comment vous faire comprendre, excusez, mais à quoi bon? Vous jugerez mieux ainsi de ma misère. » Hélas, monsieur, il est dur de penser qu'un pauvre prêtre tel que moi, si lâche, si aisément terrassé, n'en a pas moins la mission d'éclairer le prochain, de relever son courage. Quand Dieu me délaisse. Il secoua la tête, fit un effort pour se dresser debout et pesamment retomba. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos forces, répliqua paisiblement l'étranger. Il faut seulement patienter. Un bon remède, la patience, l'abbé. Moins brutal que bien d'autres, mais tellement plus sûr. La patience, commença l'abbé Donissant d'une voix déchirante. La patience. Il inclinait presque malgré lui la tête sur l'épaule de son singulier compagnon. Sa main n'avait point lâché non plus le bras déjà familier. Le vertige saignait sa tête d'une couronne souple et pourtant resserrée peu à peu, inflexible. Puis il défaillit, les yeux grands ouverts, parlant en rêve. « Non, ce n'est pas la fatigue qui m'est accablé à ce point. Je suis fort, robuste, capable de lutter longtemps, mais pas contre certains, pas de cette manière en vérité. » Il lui sembla qu'il glissait dans le silence d'une chute oblique très douce. Puis tout à coup, la durée même de ce glissement l'effraya. Il en mesura la profondeur. D'un geste instinctif, prompt comme sa crainte, il se hissa des deux mains vers l'épaule qui ne plia point. La voix, toujours amicale, mais qui sonna terriblement à ses oreilles, disait « Ce n'est qu'un étourdissement, là, rien de plus. » « Appuyez-vous sur moi, ne craignez rien. Ah, vous avez rudement marché, que vous êtes là. Il y a longtemps que je vous suis, que je vous vois faire, l'ami. J'étais sur la route derrière vous quand vous la cherchiez à quatre pattes. Votre route, ha ha !»« Je ne vous ai pas vu, » murmura l'abbé Donissant. « Est-ce possible? Étiez-vous là, vraiment? Sauriez-vous me dire... » Il n'acheva pas. Le glissement reprit d'une chute sans cesse accélérée, perpendiculaire. Les ténèbres où il s'enfonçait sifflaient à ses oreilles comme une eau profonde. Écartant les mains, il étreignit des deux bras les solides épaules, il s'y cramponna de toutes ses forces. Le torse qu'il pressait ainsi était dur et noueux comme un chêne. Sous le choc, il ne vacilla pas d'une ligne. Et le visage du pauvre prêtre sentit le relief et la chaleur d'un autre visage inconnu. En une seconde, pour une fraction presque imperceptible de temps, toute pensée l'abandonna, seulement sensible à l'appui rencontré, à la densité, à la fixité de l'obstacle qui le retenait ainsi au-dessus d'un abîme imaginaire. Il y pesait de tout son poids, avec une sécurité accrue, délirante. Son vertige, comme dissous au creux de sa poitrine par un feu mystérieux, s'écoulait lentement de ses veines. C'est alors, c'est à ce moment même et tout à coup, bien qu'une certitude si nouvelle ne s'étendît que progressivement dans le champ de la conscience, c'est alors, dis-je, que le vicaire de campagne connut que ce qu'il avait fui tout au long de cette exécrable nuit, il l'avait enfin rencontré. Était-ce la crainte? Était-ce la conviction désespérée que ce qui devait être était enfin? Que l'inévitable était accompli? Était-ce cette joie amère du condamné qui n'a plus rien à espérer ni à débattre? Ou n'était-ce pas plutôt le pressentiment de la destinée du curé de Limbre? En tout cas, il fut à peine surpris d'entendre la voix qui disait « Calmez-vous bien, ne tombez pas, jusqu'à ce que ce petit accès soit passé. Je suis vraiment votre ami, mon camarade, je vous aime tendrement. » Un bras saignait ses reins d'une étreinte lente, douce, irrésistible. Il laissa retomber tout à fait sa tête, pressée au creux de l'épaule et du cou, étroitement. Si étroitement qu'il sentait sur son front et sur ses joues la chaleur de la laine. « Dors sur moi, nourrisson de mon cœur !» continuait la voix sur le même ton. « Tiens-moi ferme, bête stupide !» Petit prêtre, mon camarade, repose-toi, je t'ai bien cherché, bien chassé. Te voilà comme tu m'aimes, mais comme tu m'aimeras mieux encore, car je ne suis pas prêt de t'abandonner, mon chérubin, gueux tonsuré, vieux compagnon pour toujours. C'était la première fois que le saint de l'ombre entendait, voyait, touchait celui-là qui fut le très ignominieux associé de sa vie douloureuse, et, si nous en croyons quelques-uns qui furent les confidents ou les témoins d'une certaine épreuve secrète, que de fois devra-t-il l'entendre encore jusqu'au définitif élargissement? C'était la première fois, et pourtant il le reconnut sans peine. Il lui fut même refusé de douter à cette minute de ses sens ou de sa raison, car il n'était pas de ceux qui prêtent naïvement au bureau familier, présent à chacune de nos pensées, nous couvant de sa haine, bien qu'avec patience et sagacité, le port et le style épique. Tout autre que le vicaire de campagne, même avec une égale lucidité, n'eût pu réprimer dans une telle conjoncture le premier mouvement de la peur, ou du moins la convulsion du dégoût. Mais lui, contracté d'horreur, les yeux clos, comme pour recueillir au-dedans l'essentiel de sa force, attentif à s'épargner une agitation vaine, toute sa volonté tirée hors de lui ainsi qu'une épée du fourreau, il tâchait d'épuiser son angoisse. Toutefois, lorsque par une dérision sacrilège la bouche immonde pressa la sienne et lui vola son souffle, la perfection de sa terreur fut telle que le mouvement même de la vie s'en trouva suspendu, et il crut sentir son cœur se vider dans ses entrailles. « Tu as reçu le baiser d'un ami ?» dit tranquillement le maquignon, en appuyant ses lèvres au revers de la main. « Je t'ai rempli de moi, à mon tour, tabernacle de Jésus-Christ, cher Nigaud. Ne t'effraie pas pour si peu. J'en ai baisé d'autres que toi, beaucoup d'autres. Veux-tu que je te dise, je vous baise tous, veillants ou endormis, morts ou vivants. Voilà la vérité. Mes délices sont d'être avec vous, petits hommes Dieu, singulières, singulière, si singulière créature. À parler franc, je vous quitte peu. Vous me portez dans votre chair obscure, moi dont la lumière fut l'essence, dans le triple recet de vos tripes. Moi, Lucifer, je vous dénombre. Aucun de vous ne m'échappe. Je reconnaîtrais à l'odeur chaque bête de mon petit troupeau. Il écarta le bras dont il étreignait encore les reins de l'abbé Donissant, et s'écarta légèrement, comme pour lui laisser la place où tomber. Le visage du saint de l'Imbre avait la pâleur et la rigidité du cadavre. Par sa bouche, relevée au coin d'une grimace douloureuse qui ressemblait à un effrayant sourire, par ses yeux durement clos, par la contradiction de tous ses traits, il exprimait sa souffrance. Mais c'est à peine néanmoins s'il s'inclina légèrement sur le côté. Il restait assis sur le pan du manteau dans une immobilité sinistre. L'ayant observé d'un regard oblique, aussitôt détourné, le compagnon fit un imperceptible mouvement de surprise, puis, reniflant avec bruit, il tira de sa poche un large mouchoir et, le plus simplement du monde, s'essuya le cou et les joues. « Trêve de plaisanterie, monsieur l'abbé, » fit-il. « La nuit, à sa fin, est rudement fraîche dans cette sacrée saison. » Il lui donna sur l'épaule une bourrade amicale, ainsi qu'on pousse par jeu un objet en état d'équilibre instable, ou les enfants, cet homme de neige, qui s'effondre aussitôt sous leur huée. Cependant, le vicaire de campagne ne chancela point, mais il ouvrit lentement les yeux. Et sans qu'aucun des traits de son visage ne se détendît, commença de couler entre ses paupières un regard noir et fixe. « L'abbé ! Monsieur l'abbé ! Hé, l'abbé ! » appela le maquignon d'une voix forte. « Vous passez, l'ami, vous êtes froid, hé là !» Il lui prit les deux mains dans une seule de ses larges paumes, et de l'autre, il frappait sur elle à petits coups. « Levez-vous, sacrebleu, mettez-vous debout, nom de nom ! Il y a de quoi se geler le sang, ma parole !» Il glissa les doigts sous la soutane et tâta le cœur. Puis, par une succession de gestes plus rapides et pour ainsi dire instantanés, il lui toucha le front, les yeux, la bouche. Puis encore il reprit la main entre les siennes et il souffla dedans son haleine. Chacun de ses mouvements trahissait une hâte un peu fébrile, celle de l'ouvrier qui achève un travail délicat et craint d'être surpris par la tombée du jour ou par quelque visite importune. Enfin, tout à coup, ramenant ses mains sur sa propre poitrine et agité d'un grand frisson comme s'il eût plongé lentement dans une eau profonde et glacée, il se mit brusquement debout. « Je résiste au froid, » dit-il, « je résiste merveilleusement au froid et au chaud. Mais je m'étonne de vous voir encore là sur cette boue glacée, immobile, assis. Vous devriez être mort, ma parole. Il est vrai que vous vous êtes bien agité tout à l'heure sur la route, mon cher ami. Pour moi, j'ai froid, je l'avoue. J'ai toujours froid. Ce sont là des choses que vous ne me ferez pas aisément dire. Elles sont vraies pourtant, je suis le froid même. L'essence de ma lumière est un froid intolérable. Mais laissons cela. Vous voyez devant vous un pauvre homme avec les qualités et les défauts de son état, un courtier en bidet normand et breton, un maquignon qu'ils disent. Laissons cela encore. Ne considérez que l'ami, le compagnon de cette nuit sans lune, un bon copain. N'insistez pas, ne pensez point obtenir beaucoup d'autres renseignements sur cette rencontre inattendue. Je ne désire que vous rendre service et que vous m'oubliez aussitôt. Je ne vous oublierai pas, moi. Vos mains m'ont fait beaucoup de mal, et aussi votre front, vos yeux et votre bouche. Je ne les réchaufferai jamais. Elles m'ont littéralement glacé la moelle, gelé les os. Ce sont les onctions, sans doute, votre sacré barbouillage d'huile consacrée, des sorcelleries. N'en parlons plus, laissez-moi aller. J'ai encore un long ruban de route. Je ne suis pas rendu. Quittons-nous ici, tirons chacun de notre côté. » Il marchait de long en large, avec agitation, avec colère, gesticulant, mais sans s'écarter de plus de quelques pas. C'est que l'abbé Donnisson le suivait, çà et là, de son regard ténébreux. Et maintenant les lèvres ne remuaient plus dans sa face immobile. Ce que le visage exprimait désormais, c'était d'ailleurs moins la crainte qu'une curiosité sans borne. On eût pu dire la haine, mais la haine suscite une flamme dans le regard humain. L'horreur, mais l'horreur est passive, et aucun cri d'angoisse ou de dégoût n'eût desserré les mâchoires refermées sur une résolution farouche. Le vain appétit de savoir n'a pas non plus cette dignité souveraine. Encore humble dans son triomphe, à chaque instant plus complet et plus sûr, le vicaire de campagne ne doutait point qu'une victoire sur un tel adversaire est toujours précaire, fragile, de peu de durée. Qu'importe de voir un instant l'ennemi à ses pieds, à sa merci. Mais c'est là le tueur d'âmes auquel il faut arracher quelques-uns de ses secrets. Tout à coup, l'étrange marcheur s'arrêta net, comme s'il eût, dans ses gesticulations, resserré d'invisibles liens tels qu'un taureau garrotté. Sa voix, un moment plus tôt montée jusqu'au ton le plus aigu, reprit son habituel accent, et il prononça les paroles suivantes avec une certaine simplicité. « Laisse-moi, ton expérience est finie, je ne te savais pas si fort. Nous nous reverrons plus tard, sans doute. Même si tu le désires, nous ne nous reverrons plus du tout. Depuis une minute, je n'ai plus aucun pouvoir sur toi. » Il retira de sa poche le large mouchoir et s'essuya frénétiquement le visage et les mains. La respiration faisait entre ses lèvres un sifflement douloureux. « Ne bredouille pas tes prières, tais-toi. Ton exorcisme ne vaut pas un clou, c'est ta volonté que je n'ai pu forcer. Ô singulière bête que vous êtes !» Il regardait à droite et à gauche avec une inquiétude grandissante. Même il se retourna subitement et scruta l'ombre derrière lui. « Cette guenille commence à me peser, » fit-il encore en agitant violemment les épaules. « Je me sens mal dans ma gaine de peau. Donne un ordre et tu ne trouveras plus rien de moi, pas même une odeur. » Il resta un long moment, le visage entre ses paumes, comme pour recueillir ses forces. Quand il releva la tête, l'abbé Donnisson, pour la première fois, vit ses yeux et gémit. Celui qui, noué des deux mains à la pointe extrême du mât, perdant tout à coup l'équilibre gravitationnel, verrait se creuser et s'enfler sous lui non plus la mer, mais tout l'abîme sidéral et bouillante à des trillions de lieues l'écume des nébuleuses en gestation, au travers du vide que rien ne mesure et que va traverser sa chute éternelle, ne sentirait pas au creux de sa poitrine un vertige plus absolu. Son cœur battit deux fois plus furieusement contre ses côtes et s'arrêta. Une nausée souleva ses entrailles. Les doigts, d'une étreinte désespérée, seuls vivants dans son corps pétrifié d'horreur, grattèrent le sol comme des griffes. La sueur ruissela entre ses épaules. L'homme intrépide, comme ployé et arraché de terre par l'énorme appel du néant, se vit cette fois perdu sans retour. Et pourtant, à cet instant même, sa suprême pensée fut encore un obscur défi. Aussitôt, d'une seule poussée, la vie suspendue reprit sa course dans ses veines, ses tempes battirent de nouveau. Le regard toujours fixé sur le sien ressemblait à n'importe quel autre regard, et la même voix parlait à ses oreilles comme si elle ne s'était jamais tue. « Je vais te quitter, » disait-elle, « tu ne me reverras jamais. On ne me voit qu'une fois. Demeure dans ton entêtement stupide. Ah, si vous saviez le salaire que ton maître vous réserve, tu ne serais pas si généreux, car nous seuls, nous, dis-je, Nous seuls ne sommes point ses dupes, et de son amour, de sa haine, nous avons choisi, par une sagacité magistrale, inconcevable à vos cervelles de boue, sa haine. Mais pourquoi t'éclairer là-dessus, chien couchant, bête soumise, esclave qui crée chaque jour son maître? Se baissant avec une agilité singulière, il prit au hasard un caillou du chemin, le leva vers le ciel entre ses doigts, prononça les paroles de la consécration, qu'il termina par un joyeux hennissement. D'ailleurs, tout se fit avec la rapidité de l'éclair. L'écho du rire parut retentir jusqu'à l'extrême horizon. La pierre rougie, blanchie, éclata soudain d'une lueur furieuse, et toujours riant, il la rejeta dans la boue où elle s'éteignit avec un sifflement terrible. « Cela n'est qu'un jeu, fit-il, un jeu d'enfant. Cela ne vaut même pas la peine d'être vu. Néanmoins, voici l'heure où nous devons nous quitter pour toujours. » « Va-t'en, dit le saint de l'Umbre, qui te retient ?» Sa voix était basse et tranquille, avec on ne sait quel frémissement de pitié. « On nous accueille avec effroi, répondit l'autre d'une voix également basse, mais on ne nous quitte pas sans péril. « Va-t'en, répondit doucement le vicaire de campagne. L'affreuse créature fit un bond, tourna plusieurs fois sur elle-même avec une incroyable agilité, puis fut violemment lancée comme par une détente irrésistible à quelques pas, les deux bras étendus, ainsi qu'un homme qui chercherait en vain à rattraper son équilibre. Si grotesque que fût cette cabriole inattendue, la succession des mouvements, leur violence calculée, plus encore leur brusque arrêt avait je ne sais quelle singularité qui ne prêtait pas à rire. L'obstacle invisible contre lequel le noir lutteur s'était tout à coup heurté n'était certes pas ordinaire, car bien qu'il eût paru en esquiver le choc avec une souplesse infinie, dans le grand silence, imperceptiblement, mais jusque dans ses profondeurs, le sol trembla et gémit. Il recula lentement tête basse et s'assit sans bruit, comme humblement. « Vous me tenez donc, » dit-il en haussant les épaules. « Jouissez de votre pouvoir tout le temps qui vous est donné. »« Je n'ai aucun pouvoir, » répondit l'abbé Donissant avec tristesse. « Pourquoi me tenter ? Non, cette force ne vient pas de moi, tu le sais. Cependant, je t'observe depuis un moment avec quelque profit. Ton heure est venue. » « Cela n'a pas beaucoup de sens, » repartit l'autre doucement. « De quelle heure parlez-vous ? Est-il encore une heure pour moi ?»« Il m'est donné de te voir, » prononça lentement le saint de l'Umbre. « Autant que cela est possible au regard de l'homme, je te vois. Je te vois écrasé par ta douleur, jusqu'à la limite de l'anéantissement qui ne te sera point accordé. » Ô créature suppliciée. À ce dernier mot, le monstre roula de haut en bas du talus sur la route. Il se tordit dans la boue, tiré par d'horribles spasmes. Puis il s'immobilisa, les reins furieusement creusés, reposant sur la tête et sur les talons ainsi qu'un tétanique. Et sa voix s'éleva enfin, perçante, aiguë, lamentable. « Assez, assez, chien consacré, bourreau !» Qui t'a appris que de tout au monde, la pitié est ce que nous redoutons le plus, bête ouinte? Fais de moi ce qu'il te plaira, mais si tu me pousses à bout... » Quel homme n'eût entendu avec effroi cette plainte proférée avec des mots, et cependant hors du monde? Quel homme n'eût au moins douté de sa raison? Mais le saint de l'Umbre, son regard fixé vers le sol, ne songeait qu'à celle des âmes que celui-ci avait perdues. Tout le temps que dura l'oraison, l'autre continua de gémir et de grincer, mais avec une force décroissante. Lorsque le vicaire de campagne se releva, il se tut tout à fait. Il gisait pareil à une dépouille. Que me voulais-tu cette nuit ? Demanda l'abbé Denisant avec autant de calme que s'il se fût adressé à quelqu'un de ses familiers. De la dépouille immobile, une nouvelle voix monta. Il nous est permis de t'éprouver dès ce jour et jusqu'à l'heure de ta mort. D'ailleurs, qu'ai-je fait moi-même, sinon obéir à un plus puissant? Ne t'en prends pas à moi, ô juste, ne me menace plus de ta pitié. Que me voulais-tu? Répéta l'abbé Denisant. N'essaie pas de mentir, j'ai le moyen de te faire parler. Je ne mens pas, je te répondrai, mais relâche un peu ta prière. À quoi bon, si j'obéis? Il m'a envoyé vers toi pour t'éprouver. Veux-tu que je te dise de quelle épreuve? Je te le dirai. Qui te résisterait, ô mon maître? Tais-toi, répondit l'abbé Denisant, avec le même calme. L'épreuve vient de Dieu. Je l'attendrai sans en vouloir rien apprendre, surtout d'une telle bouche. C'est de Dieu que je reçois, à cette heure, la force que tu ne peux briser. » Au même instant, ce qui se tenait devant lui s'effaça, ou plutôt les lignes et contours s'en confondirent dans une vibration mystérieuse, ainsi que les rayons d'une roue qui tourne à toute vitesse. Puis, ses traits se reformèrent lentement. Et le vicaire de campagne vit soudain devant lui son double. Une ressemblance si parfaite, si subtile, que cela se fût comparé moins à l'image reflétée dans un miroir qu'à la singulière, à l'unique et profonde pensée que chacun nourrit de soi-même. Que dire ? C'était son visage pâli, sa soutane souillée de boue, le geste instinctif de sa main vers le cœur. C'était là son regard, et dans ce regard, il lisait la crainte. Mais jamais sa propre conscience, dressée pourtant à l'examen particulier, ne fut parvenue, à elle seule, à ce dédoublement prodigieux. L'observation la plus sagace, tournée vers l'univers intérieur, n'en saisit qu'un aspect à la fois. Et ce que découvrait le futur saint de l'Umbre à ce moment, c'était l'ensemble et le détail. Ses pensées, avec leurs racines, leurs prolongements, l'infini réseau qui les relie entre elles, les moindres vibrations de son vouloir, ainsi qu'un corps dénudé montrerait dans le dessin de ses artères et de ses veines le battement de la vie. Cette vision, à la fois une et multiple, telle que d'un homme qui saisirait du regard un objet dans ses trois dimensions, était d'une perfection telle que le pauvre prêtre se reconnut non seulement dans le présent, mais dans le passé, dans l'avenir, qu'il reconnut toute sa vie. Et quoi, Seigneur, sommes-nous ainsi transparents à l'ennemi qui nous guette? Sommes-nous donnés si désarmés à sa haine pensive? Un moment, ils restèrent ainsi face à face. L'illusion était trop subtile pour que l'abbé Denisant ressentît proprement de la terreur. Quelque effort qu'il fît, il ne lui était pas tout à fait possible de se distinguer de son double, et pourtant il gardait à demi le sentiment de sa propre unité. Non, ce n'était point de la terreur, mais une angoisse, d'une pointe si aiguë que l'entreprise de sommer cette apparence ainsi qu'un ennemi revêtu de sa propre chair, lui parut presque insensé. Il l'osa, cependant. « Retire-toi, Satan, » dit-il les dents serrées. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge et sa main tremblait encore quand il la dressa contre lui-même. Il saisit pourtant cette épaule, il en sentit l'épaisseur sans mourir d'effroi. Il la serra pour la briser, il la pétrit dans ses doigts avec une fureur soudaine. Son visage était devant lui son propre regard, son souffle sur sa joue, sa chaleur sous sa paume. Puis tout disparu. De la lamentable dépouille encore gisante dans la boue, la voix s'éleva de nouveau. « Tu me brises, tu me mâches, tu me dévores, » geignait-elle. « Quel homme es-tu donc pour anéantir une vision si précieuse avant de l'avoir seulement contemplée ?»« Ce n'est pas cela dont j'ai besoin, » continua l'abbé Donissant. « Que m'importe de me connaître ? L'examen particulier, sans autre lumière, suffit à un pauvre pécheur. » Il parlait ainsi, bien que le regret de la vision perdue blessât toutes ses fibres. Le vertige d'une curiosité surnaturelle, désormais sans effet, à jamais le laissait haletant, vide, mais il croyait toucher au but. « Tu es au bout de tes ruses, » dit-il à la chose frémissante que son pied repoussait hors de la route. « Qui sait le temps dont je dispose encore ? Hâtons-nous ! Hâtons-nous !» Il se pencha très bas, moins pour prêter l'oreille que par un geste instinctif du zèle qui le dévorait. « Réponds donc !» Il traça le signe de la croix, non sur l'objet, mais sur sa propre poitrine. « Dieu t'a-t-il donné ma vie ? Dois-je mourir ici même ?»« Non, » dit la voix du même accent déchirant, « nous ne disposons pas de toi. » « En ce cas, que je vive un jour ou 20 ans, je devrais t'arracher ton secret. Je te l'arracherai. Dussé-je te suivre où sont les tiens ? Je ne te crains pas. Je n'ai pas peur. Sans doute tu m'es de nouveau obscur, mais je t'ai vu tout à l'heure, ô supplicié. N'as-tu pas perdu assez d'âme ? Te faut-il encore d'autres proies ? Tu es entre mes mains. J'essaierai ce que Dieu m'inspirera. Je prononcerai des paroles dont tu as horreur. Je te clouerai au centre de ma prière comme une chouette, ou tu renonceras à tes entreprises contre les âmes qui me sont confiées. » À sa grande surprise, et à l'instant même où il croyait donner toute sa force, irrésistiblement, il vit la dépouille s'agiter, s'enfler, reprendre une forme humaine, et ce fut le jovial compagnon de la première heure qui lui répondit. « Je vous crains moins, toi et tes prières, que celui... » Commencé dans un ricanement, sa phrase s'achevait sur le ton de la terreur. « Il n'est pas loin. Je le flaire depuis un instant. Oh, oh, que ce maître est dur !» Il trembla de la tête aux pieds, puis sa tête s'inclina sur l'épaule et son visage s'éclaira de nouveau, comme s'il entendait décroître le pas ennemi. Il reprit, « Tu m'as pressé, mais je t'échappe. M'arrêter dans mes entreprises, fou que tu es, je n'ai pas fini de m'emplir de sang chrétien. Aujourd'hui, une grâce t'a été faite. Tu l'as payée cher. Tu la payeras plus cher. » « Quelle grâce !» s'écria l'abbé Donissant. Il eût voulu retenir cette parole, mais l'autre s'en empara aussitôt. La bouche impure eut un frisson de joie. « Ainsi que tu t'es vu toi-même tout à l'heure, pour la première et dernière fois. Ainsi, tu verras, hé hé. Qu'entends-tu par là, menteur ?» cria le vicaire de campagne. Comme si le cri de la curiosité, en dépit de l'outrage, l'eût tout à fait rétabli dans son équilibre, remis d'aplomb, l'être étrange se dressa lentement, s'assit avec un calme affecté, boutonna posément sa veste de cuir. Le maquignon picard était à la même place, comme s'il ne l'eût jamais quitté. La main du futur saint de l'Imbre retomba, chose étrange. Après avoir soutenu tant de visions singulières ou farouches, il osait à peine lever les yeux sur cette apparence inoffensive, ce bonhomme si prodigieusement semblable à tant d'autres. Et le contraste de cette bouche à l'accent familier, aux plis canailles, et des paroles monstrueuses étaient telles que rien n'en saurait donner l'idée. « Ne t'échappe pas si vite, ne sois pas trop gourmand de nos secrets. Un prochain avenir prouvera si j'ai menti ou non. D'ailleurs, si tu t'étais donné la peine, il n'y a qu'un instant de voir ce que je te mettais sous les yeux, tu pourrais te dispenser de m'injurier. » Il employa un autre mot. « Telle tu t'es vu toi-même, te dis-je, telle tu verras quelques autres. Quel dommage qu'un don pareil à un lourdeau comme toi !» Il souffla dans ses deux mains jointes, en faisant vibrer les lèvres ainsi qu'un homme saisi d'un grand froid. Ses yeux riaient dans sa face rougeaude, et leur extrême mobilité sous les paupières demi-closes pouvait aussi bien exprimer la joie que le mépris. Mais la joie l'emporta. « Oh, 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 quel embarras, quel silence !» disait-il en bégayant. « Vous étiez plus fringant tout à l'heure, terrible au démon, exorciste, thaumaturge, saint de mon cœur !» À chaque éclat de ce rire, l'abbé Donnissant tressaillait, pour retomber aussitôt dans une immobilité stupide, son cerveau, engourdi, ne formant plus aucune pensée. L'autre se frottait vigoureusement les paumes. « Quelle grâce ! Quelle grâce ! » répétait-il en imitant comiquement sa victime. « Dans le combat que tu nous livres, il est facile de faire un faux pas. Ta curiosité te donne à moi pour un moment. » Il s'approcha, confidentiel. « Vous ignorez tout de nous, petit Dieu plein de suffisance. » Notre rage est si patiente, notre fermeté si lucide. Il est vrai qu'il nous a fait servir ses desseins, car sa parole est irrésistible. Il est vrai, pourquoi le nierais-je, que notre entreprise de cette nuit paraît tourner à ma confusion. Ah, quand je t'ai pressé tout à l'heure, sa pensée s'est fixée sur toi, et ton ange lui-même tremblait dans la giration de l'éclair. Cependant, tes yeux de boue n'ont rien vu. » Il s'ébroua dans un rire hennissant. « Hi, 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 de tous ceux que j'ai vus marqués du même signe que toi, tu es le plus lourd, le plus obtus, le plus compact. Tu creuses ton sillon comme un bœuf. Tu bourres sur l'ennemi comme un bouc. De haut en bas, une bonne cible. » Et toujours, l'abbé Donnissant, secoué de brusques frissons, le suivait du regard avec une frayeur muette. Toutefois, quelque chose comme une prière, mais hésitante, confuse, informe, errait dans sa mémoire, sans que sa conscience pût la saisir encore. Et il semblait que son cœur contracté s'échauffait un peu sous ses côtes. « Nous te travaillerons avec intelligence, » poursuivait l'autre, « aie souci de nous nuire. » Nous te taraudrons à notre tour. Il n'est pas de rustre dont nous ne sachions tirer parti. Nous te dégraisserons, nous t'affinerons. » Il approchait sa tête ronde, toute flambante d'un sang généreux. Je t'ai tenu sur ma poitrine, je t'ai bercé dans mes bras. Que de fois encore tu me dorloteras, croyant presser l'autre sur ton cœur. Car tel est ton signe. Tel est sur toi le sceau de ma haine. » Il mit les deux mains sur ses épaules, le força à plier les genoux, lui fit toucher le sol des genoux. Mais tout à coup, d'une poussée, le vicaire de campagne se rua sur lui. Et il ne rencontra que le vide et l'ombre. De nouveau, la nuit s'était faite autour de lui, en lui. Il ne se sentait capable d'aucun mouvement. Il ne vivait que par l'ouïe. Car il entendait des paroles proférées alentour, mais sans consistance, comme suspendues en l'air, dans l'irréalité d'un rêve. Puis, par un grand effort, il parvint à les rapporter à des êtres vivants et marchant tout proches. L'un de ces personnages, imaginaires ou non, s'éloigna. Il écouta sa voix décroître, décroître aussi le grincement de ses semelles sur le sable. Enfin, il se sentit soulevé, retenu par un bras replié dont la forte étreinte était douloureuse à son épaule. Quelque chose lui meurtrit encore les lèvres et les dents. Un jet de flamme traversa sa gorge et sa poitrine. Le noir où se heurtait son regard s'entr'ouvrit. Une lueur diffuse naquit lentement dans ses yeux, se précisa lentement, et il reconnut, posée sur le sol à quelque distance, une de ces fortes lanternes comme emportent les pêcheurs par les nuits du grand vent. Un inconnu le soutenait d'une main et le faisait boire au goulot d'un bidon de soldat. « Monsieur l'abbé, dit cet homme, ce n'est pas trop tôt. » « Que me voulez-vous ? » balbutia l'abbé Donissant. Il parlait le plus lentement possible et le plus posément, mais la vision était encore dans son regard, et l'homme eut un mouvement de surprise ou d'effroi qui parut incompréhensible au pauvre prêtre accablé. « Je suis Jean-Marie Boulainville, carrier à Saint-Pré, le frère de Germaine Duflot de campagne. Je vous connais bien. Êtes-vous mieux ?» Il détournait les yeux d'un air d'embarras, mais plein de pitié. « Je vous ai trouvé sur le chemin, évanoui. Un brave gars de Marelle, un marchand de bidets, retour de la foire d'Étaples, vous avez trouvé avant moi. Un ou deux, on vous a porté là. »« Vous l'avez vu ?» cria l'abbé Donissant. « Il est là !» Il s'était levé si brusquement que Jean-Marie Boulainville, heurté, chancela. Mais interprétant à sa manière un empressement si singulier, « Avez-vous quelque chose à lui demander ?» dit cet homme simple. « Voulez-vous que je le hèle ? Il n'est pas loin, sûrement. »« Non, mon ami, dit le vicaire de campagne, ne le rappelez pas. Je me sens bien mieux, d'ailleurs. Laissez-moi faire seul quelques pas. » Il s'éloigna en chancelant. Son pas se raffermissait à mesure. Quand il s'approcha de nouveau, il était calme. « Vous le connaissez ? » demanda-t-il. « Qui ça ? » répondit l'autre, surpris, et se reprenant aussitôt. « Le gars de Marelle ? » s'écria-t-il joyeusement. « Si je le connais, le mois passé à la foire de Fruges, il m'a vendu 2 pouliches, ainsi. Mais, si vous m'en croyez, monsieur l'abbé, nous ferons côte à côte un bout de chemin. De marcher, ça vous remettra plus tôt. Je vais de ce pas aux carrières d'Ely, où je travaille. D'ici là, vous vous tâterez. Si vous vous sentez plus mal, vous trouverez une voiture chez Sansonnet, au cabaret de la Pie voleuse. » « Avançons donc, répondit le futur saint de Limbre. J'ai repris mes forces, tout va très bien, mon ami. » Ils marchèrent ensemble un moment. Et c'est alors que l'abbé Donissant connut le véritable sens d'une certaine parole entendue. « Un prochain avenir prouvera si j'ai menti ou non. » Ils allaient d'abord lentement, puis plus vite, par un chemin assez dur, si plein d'ornières dès l'automne que les équipages ne l'empruntaient plus en hiver que par les fortes gelées. Tel quel, il devint bientôt impossible d'y marcher de front. Le carrier prit les devants. Le vicaire de campagne le suivait, les yeux baissés, attentif aux obstacles, posant bien à plat ses gros souliers, tout au soin de ne pas retarder la marche de son compagnon. Son corps tremblait encore de froid, de fatigue et de fièvre, que sa tragique simplicité oubliait déjà plus qu'à demi les noirs prodiges de cette extraordinaire nuit. Ce n'était pas légèreté, sans doute, ni l'hébétude d'un épuisement extrême. Il en écartait volontairement, bien que sans grand effort, la pensée. Il en remettait naïvement l'examen à un moment plus favorable, sa prochaine confession par exemple. Que d'autres se fussent partagés entre la double angoisse d'avoir été les jouets de leur folie ou terriblement marqués pour de grandes et surnaturelles épreuves. Lui, la première terreur surmontée, attendait avec soumission une nouvelle entreprise du mal et la grâce nécessaire de Dieu. Possédé ou fou, dupe de ses rêves ou des démons, qu'importe, si cette grâce est due et sera sûrement donnée. Il attendait la visite du Consolateur avec la sécurité candide d'un enfant qui, l'heure venue du repas, lève les yeux sur son père et dont le petit cœur, même dans l'extrême dénuement, ne peut douter du pain quotidien. Ils avaient fait ensemble, en une heure, vers les carrières d'Élie, plus que les trois quarts du chemin. La route lui était inconnue, et il prenait bien garde de ne s'en écarter soit à droite, soit à gauche. Parfois son pied glissait, la fange limoneuse sautait jusqu'à sa face et l'aveuglait. Cette continuelle tension de l'esprit, jointe à une espèce de résistance intérieure, la mise en garde instinctive d'une imagination déjà surmenée, détournait sa pensée d'une certaine sensation nouvelle, indéfinissable, qu'il eût été bien en peine d'analyser, même s'il en eût éprouvé le goût. Peu à peu, cette sensation devint si vive, ou pour mieux dire, car elle le sollicitait avec une particulière douceur, si persistante, si continue, qu'il en fut enfin troublé. Venait-elle du dehors ou de lui-même? C'était, au creux de sa poitrine, une chaleur comme immatérielle, une dilatation du cœur. Et c'était aussi quelque chose de plus, d'une réalité si proche, si pressante, qu'il crut un moment que le jour s'était levé, ou encore le clair de lune. Pourquoi n'osait-il cependant lever les yeux? Car il marchait toujours le regard fixé à terre, les paupières presque closes, ne découvrant aucune lueur, aucun reflet que l'imperceptible miroitement de l'eau boueuse. Et pourtant, il eût juré qu'il traversait à mesure une lumière douce et amie, une poussière dorée. Sans se l'avouer ni le croire peut-être, il redoutait, en levant la tête, de voir se dissiper à la fois son illusion et sa joie. Il ne craignait pas cette joie, il sentait qu'il n'eût pu la fuir avant de l'avoir reconnue, comme il en avait fui tant d'autres. Il était sollicité, non contraint, appelé. Il se défendait mollement, sans remords, sûr de céder tôt ou tard à la force impérieuse, mais bienfaisante. « Je ferai encore 10 pas, se disait-il, j'en ferai encore 10 autres, les yeux baissés. Puis 10 autres encore. » Les talons du carrier sonnaient joyeusement sur un sol plus ferme, asséché. Il les écoutait avec un attendrissement extrême. Il s'avisait peu à peu que cet homme était sûrement un ami, qu'une étroite amitié, une amitié céleste, d'une céleste lucidité, les liait ensemble, les avait sans doute toujours liés. Des larmes lui vinrent aux yeux. Ainsi, se rencontraient 2 élus, nés l'un pour l'autre, un clair matin dans les jardins du paradis. Ils étaient arrivés au croisement de 2 routes. L'une, en pente douce, rejoint le village. L'autre, défoncée par les charrois, descend vers les carrières. On entendait au loin l'appel d'un coq et des voix d'hommes, d'autres carriers sans doute se hâtant vers le travail avant le jour. Ce fut à ce moment que l'abbé de Nissan leva les yeux.